et qu'elles aient leur mot à dire quand il s'agit de notre appétit. Mais c'est en tout cas loin d'être insensé. Ce que nous mangeons et les quantités que nous ingérons ont pouvoir de vie et de mort sur les habitants de la planète microbienne. Tout au long des 3 millions d'années d'évolution partagée, les bactéries, même les plus simples, ont bien eu le temps de s'adapter à leur environnement humain. Pour générer une envie spécifique, il faut pouvoir accéder au cerveau. Et ce n'est pas chose simple. Le cerveau est bien emmitouflé dans d'épaisses membranes, les méninges. Et à l'intérieur, tous les vaisseaux qui le traversent sont enveloppés de tuniques encore plus denses. Ne franchis pas tous ces barrages qui veut. Il faut par exemple être du sucre pur ou un minéral. Tout ce qui est aussi petit et liposoluble qu'un neuromédiateur obtient aussi un laissez-passer. La nicotine, par exemple, peut pénétrer dans la forteresse cérébrale et activer le circuit de la récompense ou un état de vigilance décontracté. Les bactéries savent fabriquer ces petites choses capables de parvenir jusqu'au cerveau en dépit des barrages formés par les tuniques des vaisseaux sanguins. Exemple, la tyrosine ou le tryptophane. Une fois dans les cellules cérébrales, ces deux acides aminés sont transformés en dopamine et en sérotonine. Vous avez dit dopamine ? Mais oui, c'est le mot magique quand on parle du circuit de la récompense. Et la sérotonine ? Ça vous dit bien quelque chose aussi. Rappelez-vous l'équation. Pas assez de sérotonine égale dépression. Elle peut nous procurer un sentiment de contentement ou nous donner envie de somnoler. Et maintenant, songez un instant au dernier repas de Noël. Vous aussi, vous avez somnolé sur le canapé, repu de contentement. Voici donc la théorie. Quand elles ont reçu une bonne grosse portion de nourriture, nos bactéries nous récompensent. C'est agréable et ça nous donne envie de consommer certains plats. Elles agissent non seulement à travers leurs propres substances, mais aussi en stimulant nos transmetteurs. Même chose pour la satiété. Plusieurs études sur l'être humain ont permis de montrer que les messagers chimiques responsables du sentiment de satiété augmentent nettement quand nous mangeons ce dont nos bactéries raffolent. Ce qu'elles aiment, nos bactéries, ce sont les aliments qui arrivent au gros intestin sans avoir été digérés et qu'elles peuvent alors consommer. Mais oh surprise, les pâtes et le pain de mie ne figurent pas sur la liste de leurs aliments préférés. Le chapitre intitulé « Les prébiotiques » vous en dira plus sur le sujet. La satiété est généralement signalée par deux entités. D'un côté, le cerveau, et de l'autre, le reste du corps. À ce stade-là, déjà, ça peut tourner au vinaigre. Les gènes de la satiété peuvent par exemple être défaillants chez les personnes en surpoids, si bien qu'ils ne parviennent pas à générer la sensation qui nous fait dire « Oh, j'ai bien mangé !» Et puis il y a aussi la théorie du « cerveau égoïste », selon laquelle le cerveau qui ne reçoit pas assez de nourriture décide qu'il n'est pas encore rassasié. Enfin, il ne faut pas oublier que nos tissus et notre cerveau ne sont pas les seuls à dépendre de ce que nous mangeons. Nos microbes comptent aussi sur nous pour être nourris. En comparaison, ils semblent petits et insignifiants. À raison de 2 kilos de bactéries par intestin, et qu'est-ce qu'ils pourraient bien avoir à dire ? Mais songeons un instant à la quantité de fonctions prises en charge par la flore intestinale. N'est-ce pas alors une évidence qu'elle puisse aussi nous faire part de ses souhaits ? Après tout, les microbes qui la composent exercent des fonctions aussi variées et essentielles que coach du système immunitaire, assistant de digestion, producteur de vitamines ou pro de la décontamination du pain moisi et des médicaments. Évidemment, la liste est bien plus longue. Mais vous voyez où je veux en venir. Sur le dossier vital de la satiété, les bactéries doivent bien avoir leur mot à dire. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est si certaines bactéries éveillent des envies bien spécifiques. Quand on supprime les sucreries pendant un temps, on finit par ne plus en avoir vraiment envie. Est-ce à dire que nous avons affamé le lobby des dévoreurs de caramel et d'oursons en guimauve ? C'est une piste à creuser. L'important est de ne pas se représenter le corps comme une entité régie par une causalité bidimensionnelle. Le cerveau, le reste du corps, les bactéries et les éléments constitutifs de nos aliments interagissent de manière quadridimensionnelle. Mieux comprendre chacun de ces quatre axes est sans doute ce qui nous fera avancer le plus. Or, quand on travaille sur des bactéries, on a plus de liberté pour bidouiller, s'amuser et expérimenter qu'avec le cerveau ou nos gènes. C'est aussi ce qui fait d'elles un terrain passionnant. Sans compter que la ration alimentaire fournie par nos bactéries n'est pas seulement pertinente pour les questions de poignée d'amour ou de diamètre des cuisses. Elle intervient aussi, entre autres, au niveau des taux de lipides dans le sang, comme la cholestérolémie. Et voilà comment, entrer par la petite porte de derrière, nous arrivons finalement en une des journaux, puisque le surpoids et le cholestérol vont de pair avec les grands problèmes de santé publique de notre époque. La tension artérielle, l'artériosclérose et le diabète. Cholestérol et bactéries intestinales. La relation entre les bactéries et le cholestérol a été mise en évidence pour la première fois dans les années 1970. En Afrique, des chercheurs américains examinant des guerriers Maasai s'étaient étonnés de leur très faible taux de cholestérol. Ces guerriers ne se nourrissaient quasiment que de viande et buvaient du lait comme on boit de l'eau. Mais, étrangement, cette surconsommation de graisses animales n'entraînait pas de hausse des taux de lipides dans le sang. Les scientifiques supposèrent alors l'existence d'une mystérieuse substance lactique capable de brider le taux de cholestérol. On entreprit donc des recherches pour trouver cette substance. On fit des tests avec le lait de vache, mais aussi avec le lait de chamelle et le lait de rate. On parvint à faire baisser le taux de cholestérol, parfois, mais pas toujours. Les résultats ne menaient les scientifiques nulle part. On fit un autre essai en remplaçant le lait par un substitut végétal, le coffee maté, fortement enrichi en cholestérol. Et le taux de cholestérol des participants resta quand même bas. Pour les scientifiques, c'était la preuve que leur hypothèse du lait ne tenait pas la route. Pendant leurs recherches, ils avaient soigneusement noté que les Maasai buvaient souvent leur lait caillé. Mais à l'époque, personne ne songea que pour faire du lait caillé, il faut aussi certaines bactéries spécifiques. Pourtant, cela aurait aussi expliqué les résultats de l'expérience du coffee maté. Des bactéries qui ont colonisé l'intestin antérieurement n'ont en effet aucune difficulté à survivre si l'on décide de passer à un substitut végétal de lait qui contient du cholestérol. Même quand il fut démontré que le taux de cholestérol des Maasai baissait de 18% quand ils buvaient du lait caillé plutôt que du lait normal, on continua de chercher la mystérieuse substance lactique. Il faut croire que trop de zèle nuit. Ces études sur les Maasai ne pourraient répondre aux exigences actuelles. Les groupes tests étaient trop petits. Les Maasai marchent 13 heures par jour et pratiquent chaque année des mois de jeûne. On ne peut pas vraiment les comparer aux Européens carnivores. Il n'empêche, des années plus tard, les résultats de ces études furent remis à l'ordre du jour par des chercheurs qui avaient désormais des connaissances sur notre planète bactérienne. Des bactéries capables de faire baisser le taux de cholestérol? Pourquoi ne pas tester ça en laboratoire? Un flacon avec un peu de soupe de nutriments dedans, un microclimat réglé sur 37 degrés Celsius, on ajoute du cholestérol et des bactéries, et voilà. La bactérie utilisée était Lactobacillus fermentus, et le cholestérol ajouté n'était plus là, du moins en grande partie. Le résultat d'une expérience peut être très différent selon qu'elle est réalisée dans un flacon en verre ou sur un opisthoconte. Je ne vous dis pas les montagnes russes par lesquelles doit passer mon cœur quand je lis dans les articles scientifiques des phrases comme « La bactérie L. plantarum LP91 induit une nette réduction de l'hypercholestérolémie et d'autres taux de lipides dans le sang. Elle augmente l'HDL, également connu sous le nom de bon cholestérol, et entraîne une baisse sensible du taux d'artériosclérose. » Ainsi qu'on a pu le démontrer avec succès sur une population de 112 hamsters dorés. Jamais un hamster doré ne m'aura autant déçu. Les expériences sur les animaux sont une première étape permettant de tester une hypothèse sur le vivant. Si l'article disait Comme on a pu les démontrer avec succès sur une population de 112 Américains obèses, sa résonance serait tout autre. Mais ne soyons pas non plus mauvais joueurs. Une telle conclusion reste malgré tout précieuse. Pour certaines espèces de bactéries, les résultats des études sur des souris, des rats ou des cochons ont été si encourageants qu'on a pu juger pertinent de les mener aussi sur l'être humain. On a régulièrement administré aux participants des bactéries et, au bout d'un certain temps, on a mesuré leur taux de cholestérol. Les genres de bactéries utilisées, les quantités, la durée de l'expérience ou les voies d'administration étaient souvent très différents. Les études étaient parfois couronnées de succès, et parfois pas. En outre, personne ne savait de fait si la quantité de bactéries survivant à l'acidité gastrique, après administration, était suffisante pour avoir une incidence sur le taux de cholestérol. Les vraies belles études sont assez récentes. En 2011, par exemple, 114 Canadiens ont consommé deux fois par jour un yaourt spécialement fabriqué pour eux. La bactérie ajoutée était Lactobacillus reuteri, sous une forme particulièrement gastro-résistante. En l'espace de 6 semaines, ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, c'est-à-dire les LDL, les lipoprotéines de basse densité, avait baissé en moyenne de 8,91%. C'est à peu près la moitié de l'effet obtenu par la prise d'un médicament hypolipidémiant léger, qui vise à diminuer les lipides présents dans le sang, mais sans aucun effet secondaire. Dans d'autres études, d'autres bactéries ont même pu entraîner une baisse des taux de cholestérol comprise entre 11 et 30%. Reste à mener des études complémentaires pour confirmer les résultats les plus prometteurs. Les bactéries candidates pour une prochaine étude se bousculent au portillon. Pour effectuer une sélection judicieuse, il faut se poser cette question. Quelles compétences une bactérie de ce type doit-elle avoir? Ou plutôt, quel gène doit-elle posséder? Actuellement en tête de liste, les gènes BSH. BSH pour Bile Salt Hydroxylase. Ce qui veut dire que les bactéries dotées de ces gènes sont capables de décomposer les selles biliaires. Mais qu'est-ce que les selles biliaires ont à voir avec le cholestérol? Un peu d'étymologie n'a jamais fait de mal à personne. Le terme « cholestérol » est formé des termes grecs « cholé », la bile, et « stéros », ferme. La première fois que le cholestérol a pu être mis en évidence, c'était dans les calculs biliaires. À l'intérieur du corps humain, la bile sert de moyen de transport aux graisses et au cholestérol. Quand elles ont des gènes BSH, les bactéries peuvent influer sur la bile pour qu'elle fonctionne moins bien. Le cholestérol libéré et la graisse de la bile ne sont alors plus absorbés lors de la digestion. Au lieu de cela, ils atterrissent, plouf, droit dans la cuvette. Pour les bactéries, c'est un mécanisme utile. Elles mettent hors d'état de nuire la bile qui pourrait attaquer leur membrane et peuvent rejoindre le gros intestin sans être inquiétées. Et ce n'est pas le seul mécanisme par lequel les bactéries interviennent sur le cholestérol. Elles peuvent l'assimiler directement et l'intégrer à leur paroi cellulaire. Elles peuvent le transformer en une autre substance ou manipuler les organes qui le produisent. La majeure partie du cholestérol est fabriquée dans le foie et l'intestin, où les petits messagers chimiques des bactéries peuvent intervenir sur la chaîne de production. Mais soyons prudents et posons-nous cette question. Le corps veut-il vraiment toujours éliminer notre cholestérol? Il en produit lui-même 70 à 95%. Et ce n'est pas une sinécure. À en croire les médias, le cholestérol serait mauvais en soi. Rien de plus faux. Trop de cholestérol, ce n'est pas terrible, c'est vrai. Mais pas assez de cholestérol, ça ne vaut pas mieux. Sans cholestérol, adieu nos hormones sexuelles. Adieu la stabilité de nos cellules et la vitamine D. Les lipides et le cholestérol ne sont pas qu'un sujet de préoccupation pour les addicts de gâteaux crémeux et de saucisses grillées. C'est un sujet qui nous concerne tous. Des études ont par exemple mis en relation un trop faible taux de cholestérol avec des troubles de la mémoire, des états dépressifs ou un comportement agressif. Le cholestérol est une merveilleuse matière première à partir de laquelle sont construits des édifices importants, mais en avoir trop est effectivement mauvais pour la santé. Tout est donc dans la juste mesure. Nos bactéries ne sauraient pas ce qu'elles sont si elles ne pouvaient pas nous donner ici un petit coup de pouce. Certaines d'entre elles produisent plus d'acide propanoïque qui bloque la fabrication de cholestérol. D'autres produisent plus d'acétate qui la stimule. Qui aurait pensé que dans un chapitre commençant par de petits points lumineux, on aboutisse à des mots comme « envie et satiété » ou « cholestérol » ? Résumons. Les bactéries nous nourrissent. Elles rendent certaines substances plus digestes et produisent elles-mêmes leurs propres substances. Aujourd'hui, certains scientifiques estiment que notre microbiote intestinal peut être considéré comme un organe à part entière. Comme les autres organes de notre corps, il a une origine, se développe avec nous, est constitué d'un amas de cellules et communique constamment avec ses autres collègues organes. Chapitre 18. Dans le rôle du méchant, les mauvaises bactéries et les parasites. Il y a du bon et du mauvais sur Terre, et dans nos intestins. Le mauvais, c'est souvent ce qui ne veut que le meilleur, pour lui seul. Les salmonelles portent le chapeau. Quand il bat des œufs en neige, le courageux cuisinier sera parfois pris aux tripes par une peur ancestrale en songeant à ce mot cru. Salmonelle. Tout le monde a dans son cercle d'amis une ou deux personnes qu'un filet de poulet pas tout à fait cuit ou un doigt gourmand trempé dans le gâteau avant cuisson a plongé dans des affres diarrhéiques et vomitives. Pour arriver jusque dans notre assiette, les salmonelles empruntent parfois des chemins inattendus. Certaines, par exemple, profitent de la globalisation pour se jeter sur la viande de poulet et les œufs. Et voilà comment ça se passe. Si vous voulez faire des économies sur les céréales fourragères, c'est en Afrique qu'il faut aller les chercher. Nous en importons donc par avion. Mais en Afrique, il y a aussi plus de tortues et de lézards en liberté qu'en Europe. Quand on importe les céréales, on importe donc aussi les salmonelles. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces bactéries font partie des éléments normaux de la flore intestinale des reptiles. Et tandis que la tortue se soulage tranquillement dans le champ de céréales délocalisé, l'agriculteur africain est déjà en route pour faire la récolte. Après un vol en avion sans incident particulier, les céréales et les bactéries des crottes de tortue arrivent dans les fermes d'élevage européennes où le tout sera avalé par un poulet affamé. Or, les salmonelles ne font pas naturellement partie de la flore intestinale des poulets, où elles jouent plutôt le rôle d'agents pathogènes. Voilà donc nos salmonelles dans les intestins des volailles, où elles peuvent se multiplier avant d'être en partie évacuées par derrière. Comme les poules n'ont qu'une seule porte de sortie, l'œuf entre forcément en contact avec leur déjection. Les salmonelles sont donc d'abord présentes à l'extérieur de l'œuf. Elles ne pénètrent à l'intérieur qu'à partir du moment où la coquille est fêlée. Mais, me direz-vous, quand on est une salmonelle, comment passe-t-on de l'intestin à la chair du poulet ? Ce n'est pas très jojo. Les poulets nourris au rabais sont généralement conduits dans de grands abattoirs. Une fois tués et décapités, ils sont plongés dans de grandes cuves remplies d'eau. Ces bassins, c'est un peu le spa privatif de la salmonelle. Un spa qui propose aussi des lavements aux poulets décapités. Dans une entreprise où l'on abat 200 000 poulets par jour, il suffit d'un chargement nourri au rabais pour que tous les poulets célèbrent ensemble une grande fête du partage des salmonelles. Ces volailles, on les retrouve ensuite, par exemple, au rayon surgelé d'un magasin de discount. Si on les fait bien rôtir, ou qu'on décide de faire une poule au pot, les salmonelles passent l'arme à gauche et on peut ne plus s'en soucier. Dans la plupart des cas, une viande bien cuite n'est pas à l'origine d'une salmonellose. Le problème, c'est quand, après avoir acheté son poulet surgelé, on le laisse décongeler tranquillement dans l'évier ou dans l'essoreuse à salade. Car les bactéries supportent très bien la congélation et la décongélation. Dans notre laboratoire, la bibliothèque bactérienne se compose de curieux germes qui ont survécu à des températures de moins 80 degrés Celsius et qui, une fois décongelés, continuent leur petit train-train habituel. La chaleur, en revanche, ne leur profite pas. Il suffit d'une dizaine de minutes à 75 degrés Celsius pour envoyer les salmonelles au tapis. Voilà pourquoi ce n'est pas le filet de poulet grillé qui fait notre malheur, mais la salade lavée dans le même évier. Nous sommes régulièrement en contact avec la flore intestinale de nos animaux d'élevage, mais nous ne le remarquons que quand elle abrite des bactéries étrangères qui nous refilent la courante. Le reste du temps, nous n'y pensons pas. Et puis, il faut bien que nos bactéries viennent de quelque part. Si l'on s'en tient sagement à des œufs bio de poules nourries avec les produits de la ferme, on est moins exposé aux bactéries dangereuses. À moins que l'agriculteur ait un faible pour le poulet surgelé soldé. Si pour une raison ou pour une autre, il devait vous arriver de louper la préparation du poulet, vous mangerez donc, en plus des fibres musculaires, quelques cellules de salmonelle. Pour nous mettre hors de combat, il faut entre 10 000 et 1 million de ces organismes unicellulaires. 1 million de salmonelles, c'est en taille à peu près le cinquième d'un grain de sel. Mais comment cette minuscule armée fait-elle pour nous enchaîner à la cuvette des toilettes, alors qu'avec un volume équivalent à 600 millions de grains de sel, nous sommes pour elle un géant colossal? C'est un peu comme si un seul cheveu d'Obama gouvernait tous les Américains. Les salmonelles se multiplient beaucoup plus vite que les cheveux. C'est un premier point. Dès que la température dépasse les 10 degrés Celsius, la salmonelle sort de son hibernation, s'étire et commence à se développer. Elle est dotée de nombreux bras filigranes qui lui permettent de nager de-ci de-là avant de s'accoler à la paroi intestinale où elle se fixe. De là, elle pénètre dans nos cellules et provoque un syndrome inflammatoire. Les cellules réagissent en déversant quantité d'eau vers l'intestin pour repousser au plus vite cet envahisseur. Entre la consommation fortuite et les grandes eaux, il peut s'écouler de quelques heures à une journée. À condition de n'être ni trop jeune, ni trop vieux, ni trop faible, ce type de douche auto-nettoyante est assez efficace. Les antibiotiques, ici, feraient plus de mal que de bien. Il nous revient donc d'aider notre intestin et de faire notre possible pour mettre les salmonelles à l'écart. Il faut s'en débarrasser à l'eau chaude et au savon et leur dire clairement qu'elles n'y sont pour rien. Non, tout est de notre faute. Nous ne sommes pas prêts pour une relation si... viscérale. Quand on parle de toxi-infection alimentaire, les salmonelles sont en pole position. Les poulets et leurs dérivés n'ont pas l'exclusivité. Mais ils restent leur terrain de jeu préféré. Les salmonelles se divisent en plusieurs sous-catégories. Au laboratoire, quand nous recevons des échantillons de sel de patients, nous pouvons les tester à l'aide de différents anticorps. Quand un anticorps lie les salmonelles, elles s'agglutinent et forment de gros grumeaux. Le résultat est visible à l'œil nu. Dans ce cas, on peut même dire l'anticorps contre la gastro-salmonelle XY, entraînant une forte réactivité, il doit s'agir ici d'une gastro-salmonelle XY. C'est aussi ce qui se passe dans notre corps. Notre système immunitaire fait la connaissance d'une bande de salmonelles et se dit « Tiens, je pourrais regarder si je n'ai pas dans mes trésors un ou deux sombreros qui leur iraient. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Il s'en va farfouiller dans ses placards à la recherche du bon couvre-chef. Quand il a trouvé ce qu'il cherchait, et fait ce qu'il fallait pour que le sombrero convienne aux salmonelles, il demande à un chapelier d'en fabriquer 1 million d'exemplaires. Une fois coiffées de leur sombrero, les salmonelles n'ont plus l'air aussi dangereux. Elles ont surtout l'air ridicules. Elles sont trop lourdes pour nager de ci, de là, et n'y voient pas assez pour pouvoir attaquer une cible précise. Les anticorps du laboratoire sont comme un échantillonnage de différents sombreros. Quand c'est la bonne taille, les bactéries croulant sous le poids de leur coiffe se regroupent en grumeaux et on peut alors déterminer, selon le type de chapeau, le type de salmonelle en présence dans l'échantillon de sel. Si vous voulez éviter à votre système immunitaire d'en baver des ronds de chapeau et que vous n'êtes pas non plus fan de la gastro, voici quelques règles simples à suivre. Règle numéro 1. Les planches à découper en bois, c'est joli, c'est tendance, mais les bactéries survivent bien mieux dans les fentes et les rainures du bois que sur une planche en plastique. Règle numéro 2. Tout ce qui a été en contact avec de la viande crue ou la coquille des œufs doit être soigneusement lavé à l'eau chaude. La planche à découper, les mains du cuisinier, les couverts, les éponges et, le cas échéant, les saureuses à salade. Règle numéro 3. Dans la mesure du possible, on fait bien chauffer la viande et les plats à base d'œufs. Se lever à la fin d'un dîner aux chandelles pour aller mettre sa part de tiramisu au micro-ondes aurait sans doute des conséquences désastreuses sur la qualité de la relation amoureuse. Aussi, pour ce type de préparation et la paix des ménages, il est recommandé d'acheter des œufs frais de bonne qualité et de toujours les stocker à une température inférieure à 10 degrés Celsius. Règle numéro 4. Il faut voir plus loin que le bout de sa cuisine. Si vous avez nourri à la suite et dans cet ordre votre iguane, votre estomac et la cuvette de vos WC, vous vous souviendrez peut-être de ce que j'ai mentionné plus haut. Les salmonelles comptent parmi les bactéries normales de la flore intestinale reptilienne. Hélicobactère, le plus vieil ami de l'homme. Thor Heyerdahl était un homme calme et décidé. Il observait les courants et les vents, s'intéressait aux hameçons anciens ou aux vêtements fabriqués en